France Culture.
France Culture, Être et Savoir. Louise Touraine.
Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, le mercredi à 14h et en podcast. Aujourd'hui, nous parlons d'amour. Pourquoi pas à quelques jours de la Saint-Valentin? Car même quand l'actualité nous préoccupe, malgré nos échéances scolaires ou professionnelles, nos émotions, nos relations, nos amours réels ou imaginaires demeurent au cœur de nos pensées. Elle se pare aujourd'hui de termes nouveaux pour décrire ce qui nous arrive, termes que les adolescents aiment beaucoup, on va vous en dire quelques-uns dans le fil de cette émission. Avec nos invités, nous réfléchirons à ce sentiment de nouveauté sur ce qui se passe au niveau du discours amoureux, en nous demandant justement si les jeunes générations nous apprennent quelque chose de l'amour et puis surtout ce qui change au fil des générations.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul.
1962, Françoise Hardy et une autre époque avec tous les garçons et les filles de mon âge. Bonjour Christine Détresse.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon, autrice de Crush, fragment du nouveau discours amoureux publié chez Flammarion, et de sociologie des émotions avec Kevin Dieter, publié chez Armand Collin en 2025. Est-ce qu'il y a des époques de l'amour? On entend bien qu'on a changé d'époque, mais est-ce que entre 1962 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs époques du discours amoureux?
Alors, en fait, c'est très bien de commencer avec cette chanson de Françoise Hardy, parce que c'est vraiment la chanson emblématique du flirt. Et on oublie que le flirt, c'est un script sentimental qui est une pratique culturelle des années 60, qui n'existe pas en tant que telle auparavant, et qui va disparaître aussi au fur et à mesure, notamment que les jeunes femmes vont avoir accès à la contraception. Le flirt, c'est effectivement avoir le droit de se promener dans la rue deux par deux, avoir le droit et même devoir se promener dans la rue deux par deux quand on est un jeune homme ou une jeune fille dans le vent, aller au cinéma, aller écouter les yéyés, etc. Mais avec quelqu'un dont on n'a pas l'intention qu'il devienne son époux et son épouse. Et on a bien vu que c'est effectivement un schéma très hétérosexuel et au bout du compte, il faut quand même se marier. Et ça, c'est nouveau. Il y a une historienne, Fabienne Castarrosas, qui a montré que le flirt, en fait, pendant un siècle, va changer de signification. Et l'avènement des années 60, c'est l'avènement du flirt. Et elle explique qu'avec la contraception, en fait, le flirt, comme pratique culturelle, va disparaître, puisque là, le rapprochement des corps, n'est plus aussi problématique ou crucial. Oui. Et c'est par rapport à justement à cette histoire du flirt que moi j'avais envie de travailler sur le crush en me disant, mais de la même façon que flirt, donc c'est exactement ce que vous pointez, que flirt peut paraître le scénario sentimental, la pratique culturelle amoureuse des jeunes des années 60, est-ce que crush, ce mot que moi, au siècle dernier, donc pas années 60, mais voilà, années 80, je ne connaissais pas quand j'étais adolescente, est-ce que crush, c'est le mot du script sentimental des ados d'aujourd'hui, en fait. Donc c'était effectivement exactement cette même intuition, ou en tout cas cette énigme que j'avais sur est-ce qu'à chaque époque correspondrait, alors soit un terme, mais en tout cas une façon d'aimer ou de s'attacher, d'avoir des sentiments pour l'autre.
Évidemment, dans les années 80, 90, pour moi, on connaissait pas encore le crush, on n'utilisait pas ce mot, mais je me souviens que flirt, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire dans les chansons et les livres, parce que nous, on sortait
exactement
ensemble.
Ou on marchait avec quelqu'un. Alors moi, dix ans avant, on marchait avec quelqu'un.
Donc on sortait ensemble, il y avait un peu plus de rapprochement physique, mais on ne sait pas si en fait c'est vraiment une histoire si linéaire du rapprochement physique plus ou moins autorisé. Et ça, on va peut-être le voir avec vous. Armelle Andreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la démographie et de la sociologie des sexualités, co-autrice avec Nathalie Bajos et Caroline Moreau d'une grande enquête, hein, contexte des sexualités en France. D'ailleurs, la sexualité, l'amour, voilà, on va voir comment ça dialogue. Une enquête de l'INSERM en 2015. 24. On parle aujourd'hui beaucoup du recul, de l'âge du premier rapport sexuel et puis un peu du recul de la sexualité. On aurait moins de rapports. Est-ce que c'est ça le nouveau scénario de l'amour? Alors l'amour avec un petit A.
Alors voilà, c'est peut-être ça qu'on a mis à jour dans cette nouvelle enquête qui était la quatrième d'une série d'enquêtes qu'on fait régulièrement en France pour voir justement comment évolue au fil des générations la sexualité. Et c'est vrai que là, dans cette dernière enquête, on voit que chez les plus jeunes générations, il se passe des choses en termes de déliaison entre la sexualité et l'amour. Donc il y a ces indicateurs, ces quelques indicateurs traditionnels qu'on utilise pour quantifier un peu la sexualité, qui est l'âge au premier rapport sexuel, mais aussi la fréquence des rapports sexuels dans les dernières semaines et aussi le nombre de rapports qu'on a pu avoir dans la dernière année. Et on constate effectivement que les plus jeunes générations semblent moins engagées, moins vite et moins fréquemment dans l'activité sexuelle telle qu'on la décrivait dans les anciennes générations. Et toute la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que les jeunes font vraiment moins de sexualité ou alors est-ce qu'ils font de la sexualité différemment et que nos enquêtes peinent finalement aussi à appréhender, à se saisir de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui qui est différent de ce qu'on faisait dans les autres générations.
On est d'accord que faire le sexe et faire la sexualité, c'est tout à fait une expression de jeunes, voire même d'enfants qui disent faire le sexe quand ils parlent évidemment de la sexualité des adultes, mais c'est vraiment nouveau comme manière de le dire.
Parce que sans doute que dans les anciennes générations, on questionnait beaucoup moins la manière de faire le sexe. Ça allait de soi, ce qu'on était en train de faire comme geste quand on faisait du sexe. Et peut-être ce qui se joue aujourd'hui, notamment avec la reconnaissance des minorités sexuelles, de la sexualité homosexuelle, de la sexualité sans qui est forcément le script traditionnel de la sexualité hétéropénétrative, fait que finalement, ça va plus de soi de savoir ce qu'on fait quand on fait du sexe.
Justine Briquet-Moreno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice d'un ouvrage dont le titre est « Les cobayes », parce que vous avez enquêté sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans à travers un groupe de jeunes. J'ajoute que vous êtes journaliste société au magazine Elle. Faire l'amour et faire le sexe, c'est pas la même chose alors ?
Non, je pense que effectivement la grille de lecture de la sexualité pour parler des relations amoureuses qu'entretiennent les jeunes est peut-être un petit peu révolue, c'est-à-dire que maintenant ils inventent aussi tout un spectre en fait de nouvelles relations, ils ont besoin de mettre des mots en fait sur tous ces types de relations et donc il peut y avoir effectivement des relations où il n'y a pas nécessairement un besoin de sexualité. Donc ça c'est vrai que c'est une réalité et ils l'assument complètement, ils ne s'obligent plus et il n'y a plus cette notion de devoir conjugal dans les couples même sérieux et engagés. Donc ça je pense que c'est une nouveauté et en fait moi ce que j'ai remarqué dans mes entretiens c'est qu'ils ont besoin de mots ces jeunes, ils ont besoin de poser des mots sur leurs émotions, sur ce qu'ils vivent et donc ça crée des nouveaux termes, que ça soit par exemple sex friend, donc un ami avec qui on a des relations suivies, que ça soit situationship, qui est un espèce d'entre-deux entre un couple traditionnel et en même temps une relation sans engagement. Il y a plein de termes différents en fait qui apparaissent. C'est pas forcément un grand changement par rapport aux générations précédentes, mais ils ont besoin de poser des mots là-dessus, donc ils inventent des nouvelles terminologies.
Et c'est ça le crush, en fait, Christine Détresse, c'est que on a des termes et plein de termes pour ce nouveau discours amoureux. Elle est très intéressante, cette référence à Barthes, évidemment, puisque c'est un livre qui a beaucoup marqué nos générations. On peut se mettre dans la même et puis il y aurait Justine Briquet-Moreno qui est nettement plus jeune de l'autre. Vous avez 29 ans ?
Oui, 28. 28 encore.
Encore 28,
pas encore
29 cette année.
Mais du coup, j'appartiens de justesse à la génération Z dont je parle.
Ça crée une différence qui va être peut-être féconde pour notre discussion. Donc, cette idée de mettre des mots, de trouver des termes pour décrire bien toutes les nuances des relations. C'est très particulier à notre époque.
Oui, alors à notre époque, mais en même temps, ça renvoie à une question anthropologique que moi, je trouve vertigineuse et que justement, avec Kevin, on a abordé dans Sociologie des émotions, c'est est-ce qu'on peut éprouver des émotions quand on vit dans une langue où il n'y a pas le mot pour l'émotion? Et ça, les anthropologues, ils sont confrontés à ça. Vous allez en Allemagne, vous avez Fortfreude, ça veut dire la joie à anticiper la venue d'un ami. Si vous êtes en France et que vous n'avez pas ce terme-là, est-ce que vous ressentez, on va dire, bah voilà, je suis contente, je suis joyeuse, mais est-ce que ça a une densité autre parce que vous n'avez pas le mot pour le dire, en fait? Et ça, voilà, les romanciers, Kundera, il parle de la litoste, Elena Ferrante, elle parle de la framantatuglia, bon, je garantis pas du tout mon accent italien, et tous les romanciers se sont amusés de ça, surtout quand ils vont d'une langue à l'autre, et Crush, c'était exactement ça, là. C'était vraiment, c'est venu, en fait, de mes étudiants qui sont revenus avec un entretien, et dans l'entretien, il y avait une petite jeune fille de 11-12 ans qui disait, moi, j'ai eu un crush, et puis je l'ai mis au congélo. Et moi, je leur ai dit, mais de quoi elle parle? Et là, ils ont explosé de rire, et moi, ça m'a pas fait rire, enfin si un peu, mais surtout je me suis dit, est-ce que c'est un nouveau mot parce que c'est un nouveau sentiment que moi je ne connaissais pas, ou un mot justement de cette génération jeune, etc., qui a besoin d'avoir ces mots à elle, mais pour désigner quelque chose que nous on aurait pu connaître. Et plus je les ai rencontrés, interrogés, plus je pense plutôt vers cette première hypothèse qui est que moi, dans ma génération, n'ayant pas les réseaux sociaux, n'ayant pas Netflix, n'ayant pas les teen séries, les teen movies qui existent aujourd'hui, je ne pense pas que je ressentais de crush, en fait. Mais voilà, maintenant que j'ai écrit le livre, peut-être que je vais en ressentir.
Et j'y ai beaucoup pensé en vous lisant. Et c'est toute la question qu'on se pose, c'est est-ce que on a ressenti ces émotions-là, ce type de scénario? Est-ce qu'on l'a traversé? Est-ce qu'on l'a vécu? Moi, je dirais, je pense que oui. Je pense que des crushs, j'en ai toujours eu. Et c'est juste un mot qui s'ajoute à une réalité que je connais.
Voilà, peut-être que je peux préciser pourquoi je dis que j'en ai pas ressenti. Parce que moi, ce qui m'a frappé dans les entretiens, c'est que pour eux, crush, c'est quelque chose qui n'a pas vocation à se concrétiser. C'est-à-dire que la personne pour qui on éprouve le crush ne le sait pas.
J'ai bien compris.
Voilà. Bon, voilà.
J'avais parfaitement compris. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette époque, et c'est la grande question de cette émission, c'est finalement, est-ce qu'avec tous ces nouveaux termes et ces approches un peu nouvelles, et elles vont être nourries, vous allez l'entendre, de témoignages de lycéennes, on pourrait pas relire notre biographie amoureuse d'une autre façon et se demander ce qui nous est arrivé. Alors, je vais pas tout dire à l'antenne, hein, je vous rassure, chers auditeurs, auditrices. Ce qui nous est arrivé, ce qu'on a traversé, nous et notre génération, finalement, Armelle Andreau.
Mais effectivement, tout l'enjeu est à chaque fois d'essayer de comprendre qu'est-ce qui change vraiment dans les pratiques et qu'est-ce qui change dans la manière de les qualifier et de les décrire. Et sur l'amour et sur la sexualité, je suis tout à fait d'accord avec Christine. C'est vrai que ce qui caractérise un peu l'époque contemporaine, c'est tous ces espaces où on peut parler de ça. Et la révolution numérique, le développement de toutes ces technologies font que les jeunes générations, de fait, passent beaucoup plus de temps à mettre en discours ce fameux discours amoureux, beaucoup plus qu'on pouvait le faire dans les générations précédentes. Mais donc, effectivement, l'enjeu est toujours pour les scientifiques d'essayer de dire est-ce que ça change vraiment ou est-ce qu'on est juste en train de requalifier les choses.
Est-ce que vous avez le sentiment, Justine Briquet-Moreno, qu'il y a un grand espace qui s'est ouvert pour parler de l'amour, du sexe et puis des relations en général?
Oui, complètement. Les réseaux sociaux, c'est quand même une fenêtre sur le monde extérieur. Ils peuvent taper ce qu'ils veulent dans le moteur de recherche. Dès qu'une question leur traverse l'esprit à l'adolescence, ils ont une réponse qui arrive, pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, c'est vrai que ça ouvre des espaces de discussion, les réseaux sociaux. Et clairement, c'est quelque chose qui revenait, moi, dans mes entretiens. C'était souvent l'endroit où ils avaient trouvé le plus de réponses. Et non pas auprès des parents ou même à l'école. Quand je parlais, par exemple, des cours d'éducation sexuelle, souvent, j'entendais un rire et on me disait, non, c'est clairement pas là où j'ai pu vraiment apprendre ce que c'était la sexualité et la relation amoureuse. Et par rapport aux réseaux sociaux, je pense que ça leur permet effectivement de se libérer des fois. Par exemple, pour les minorités sexuelles, ça leur permet de voir des pairs, P-A-I-R, dans leur écran de téléphone. Là où avant, quelques années en arrière, quand ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ces jeunes-là, ils étaient étaient très isolés, par exemple, à la campagne, où ils pouvaient avoir moins de représentations autour d'eux. Là, grâce aux réseaux sociaux, ils ont des rôles modèles auxquels se référer. Ils peuvent s'identifier et donc plus facilement s'affirmer, même quand ça peut être compliqué, par exemple, dans leur famille, et où il n'y a pas spécialement d'acceptation, par exemple. Donc, je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça leur permet énormément de parler. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'ils parlent plus d'amour et de sexe qu'ils ne le pratiquent. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent beaucoup à cette question-là. Donc, ils ne s'en désintéressent pas du tout. Mais par contre, effectivement, tout est porté d'abord sur la réflexion. Ils réfléchissent beaucoup à ça avant de réellement passer le cap.
D'où tous ces termes, en fait, ouais, qui occupent le vocabulaire et les discussions. C'est quand même un sujet qui leur importe. Il est temps de faire rentrer dans cette discussion Maëlle et Justine. Ce sont des prénoms d'emprunt pour ces deux élèves de terminale que j'ai rencontrés au pied de leur lycée, dans les Yvelines. On a parlé de l'importance de l'amour dans leur vie.
En fait, on a plus la mentalité que faut que ce soit quelque chose qui apporte que du positif. C'est-à-dire qu'on va pas faire de sacrifices forcément, ou en tout cas pour l'instant, parce qu'on est trop jeune pour faire des sacrifices pour une relation. Mais oui, vraiment l'avoir à côté de notre vie, mais ça va pas être quelque chose de central. Essayer vraiment de le mettre sur le côté pour que si jamais ça se passe mal, ce soit pas l'entièreté de notre vie qui parte en live après, quoi.
Donc c'est un aspect parmi plein d'autres.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que ça prend quand même une partie importante de notre vie, mais on essaye de se détacher suffisamment pour justement garder le positif. Et si jamais on trouve personne ou alors la personne ne nous correspond pas, qu'on se détache vraiment facilement et que ça ne nous impacte pas énormément. En tout cas, à notre âge, c'est important étant donné qu'on a d'autres intérêts. Mais oui, ça prend une place super importante quand même, je trouve.
Du point de vue des relations, c'est plus important les copines ou les garçons ?
Les copines, toujours.
Ah oui, c'est sûr.
Ouais, on s'est toujours promis de jamais se disputer pour un garçon.
Et on s'est jamais disputé pour un garçon. Et il y a aussi l'aspect que le garçon, il peut rester, il peut partir. Alors que la copine, à 3h du mat, si on l'appelle parce que ça va pas, la copine, dans tous les cas, elle est là. On sait qu'il n'y a pas de souci. Et oui, non, il y a beaucoup plus. Même la relation est totalement différente et c'est beaucoup plus fusionnel, je trouve, en amitié justement qu'en amour. Où je trouve qu'il y a toujours ce truc de méfiance, alors qu'en amitié, on peut complètement se laisser aller. Et vraiment donner 100% de sa personne, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de déception derrière si on connaît bien la personne.
Elles ont 18 ans, Maëlle et Justine, et peut-être n'ont-elles pas encore connu de chagrin d'amitié, parce que ça existe aussi. Comment vous entendez ces propos? Je ne sais pas avec qui commencer, Christine et Tresse peut-être.
Alors quand elles parlent de l'amitié, j'espère qu'elles continueront à avoir cette importance-là accordée à l'amitié. Je pense au livre de Alice Rebaud sur nos puissantes amitiés et qui a bien montré aussi, et ça, moi, je l'avais entendu aussi avec les jeunes gens que j'avais interrogés, cette reconsidération de la hiérarchie qu'en tout cas, traditionnellement, nous, dans notre génération, on avait entre l'amour conjugal, le couple, etc., et puis après les amitiés, et avec l'idée que les amitiés, le temps des copains, le temps des copines, alors surtout pour les filles d'ailleurs, que il y a un temps pour les copines, et puis qu'après, le principal, l'important, c'est le couple, la famille, etc. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement réjouissant, en fait, important et réjouissant de les entendre mettre ça en question. Et j'espère que ça va continuer à être aussi important et à réfléchir à cette hiérarchie que culturellement, etc., on nous a infusée et puis imposée, à laquelle on a été socialisée, pour parler comme une sociologue.
Oui, justement, je pense que c'est Armel. À ce niveau, il y a très clairement, j'ai l'impression, des différences entre les filles et les garçons, puisque dans cette histoire de hiérarchie des relations, pour les garçons quand même, notamment chez les jeunes, traditionnellement, les relations d'amitié entre garçons avaient vocation à être plus importantes que les relations d'amour ou les relations affectives avec les filles. Et peut-être que ce qu'on observe effectivement aujourd'hui, donc c'est pas anodin que ce soit deux filles qui aient raconté ça dans cette interview, c'est de dire que finalement les jeunes filles aujourd'hui se conduisent comme les garçons des générations précédentes et considèrent aussi que tout ce qui les relevait historiquement des formes de compétition entre filles pour l'accès aux garçons, c'est vraiment quelque chose qui semble largement révolu. Et ça résonne avec pas mal de résultats qu'on a dans l'enquête sur la sexualité, où on voit que dans les évolutions en cours sur le rapprochement des comportements des garçons et des filles, il y a vraiment plein de choses qui sont en train de se jouer actuellement, où les filles sont beaucoup plus en train de remettre en question vraiment le modèle hétérosexuel dans lequel toutes les discussions autour du consentement, par exemple, le montrent, n'étaient tout sauf satisfaisants pour elle en termes de relations et en termes de pratiques, si on s'intéresse à la sexualité en particulier. Donc il y a beaucoup de choses qui changent du côté des filles.
Même constat, Justine Briquet-Moreno, est-ce que c'est un critère de réussite personnelle, au sens où on est satisfait de son existence, du coup plus l'amitié que l'amour?
Oui, non, mais complètement. Je trouve que ce que racontent ces jeunes filles, ça exprime très bien un ressenti global qu'il y a chez les femmes en général et les jeunes femmes notamment dans ces générations. C'est-à-dire que moi, je sens un espèce de détachement effectivement vis-à-vis de la relation hétéro, parce que des fois, elles sont un petit peu déçues en fait par les comportements des garçons. Et j'ai remarqué qu'il y avait des fois un petit fossé qui pouvait se creuser dans les couples hétéros. Et effectivement, la relation amicale, souvent, elle est amenée comme un refuge un peu dans les discussions. On voit qu'elle apparaît comme un rempart face aux déceptions sentimentales qu'il peut y avoir avec les garçons. Le Haut Conseil à l'égalité en janvier a publié son rapport annuel où, encore une fois, on parle de la montée du masculinisme chez les jeunes hommes. Et on voit aussi d'année en année que le féminisme, il augmente énormément chez les jeunes filles. Et donc, quand on ne se retrouve pas sur les valeurs, comment on peut rentrer en connexion et s'aimer? Donc moi, j'ai remarqué que souvent, il y avait un décalage à ce niveau-là. Et souvent, il y a un manque de mots. C'est paradoxal parce que avant, je disais qu'il parlait beaucoup d'amour et de sexualité. Et en même temps, j'ai remarqué que dans les couples hétéros, des fois, il y avait un petit problème de communication en fait entre les partenaires et qui ne se comprenaient pas forcément. Donc voilà, moi, ce que j'ai constaté, effectivement, c'est ça. C'est ce retour du coup à l'amitié, effectivement. Après, je pense que c'est propre à l'adolescence aussi. C'est-à-dire que le moment de l'adolescence, c'est le moment où les amitiés sont le plus fortes. Mais ensuite, en évoluant vers la trentaine, progressivement, les jeunes, ils vont quand même aller vers le couple monogame. Simplement, c'est une arrivée qui est plus tardive par rapport à leurs aînés. C'est-à-dire qu'ils vont vivre tout un tas d'expérimentations sur lesquelles on n'est pas obligé de poser des termes, etc. Et ensuite, ils arrivent vers 30 ans et ils se disent que finalement, le couple hétéro et la famille, ça leur convient aussi. Mais c'est juste plus tardif comme réalisation.
Alors à propos de termes, on peut évoquer le gender gap, qui est cette différence entre le monde des garçons et celui des filles, puis des hommes, puis des femmes, même en termes de comportement politique. Mais cette puissance de l'amitié qui domine peut-être les sentiments adolescents souvent, et particulièrement des filles, on le redit, est-ce que ça n'a pas aussi infusé chez les adultes? Est-ce que ça n'a pas revalorisé l'amitié chez les femmes de 40, 50 ou plus, avec ce terme de sororité que les féministes emploient beaucoup? Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris de notre époque? Qui veut répondre, Armelle Andreau?
Oui, je pense que ça fait partie effectivement des pratiques qui sont particulièrement visible chez les jeunes et qui nous amène, nous les plus âgés, à finalement reformuler nos expériences ou changer l'ordre de nos priorités ou ne plus se sentir à ce point soumis à des injonctions à justement s'impliquer corps et âme dans le modèle hétérosexuel qui était la norme du couple dans lequel les femmes sont censées historiquement s'investir totalement et de voir nos filles, nos petites sœurs faire autrement, ça nous fait aussi peut-être changer de regard.
Christine Détré.
Oui, moi, je voudrais, rebondir sur ce que dit Armelle. Moi, ce qui me frappe beaucoup, alors, aussi bien dans les entretiens que, comme tu dis, les filles, les petites sœurs, etc., c'est aussi la remise du temps, en fait, que nous, on était, traditionnellement, une fois qu'on était avec quelqu'un, que c'était un couple installé, etc., on passait tout son temps avec, en fait. On passait les week-ends avec, on passait les vacances avec. Et ça change aussi. Dans la génération des plus jeunes, les jeunes femmes, elles peuvent très bien partir en vacances. Et alors, elles vont passer quelques jours avec le compagnon, la compagne. Et puis passer plus de temps de vacances avec leurs copines, leurs amis. Et ça, effectivement, moi, ça me fait réfléchir sur la façon dont, encore une fois, on a été éduqués et socialisés à ce que devait être l'amour avec un grand A. Tout à l'heure, la jeune fille, je ne sais plus son prénom, parlait de sacrifice aussi. Mais ça aussi, c'est vraiment intéressant de voir comment elle s'interroge sur le sacrifice, la souffrance, l'amour, ça doit faire mal, je dois m'annihiler dans cette relation-là. Ce qu'on est en train de souligner avec l'amitié, c'est que non, on ne s'annihile plus, on ne s'annule plus soi dans la relation avec une personne, en fait.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Ah, c'est vraiment tout ce qu'on aime dans notre génération. Vraiment, elle s'assume, elle est 100% elle-même, elle essaye pas de plaire à qui que ce soit et tout. Et elle met vraiment en avant sa communauté et tout. Et ça fait trop plaisir de voir vraiment des femmes qui s'assument et qui sont mises sur le devant de la scène et qui dépassent Céline Dion, en fait. Donc,
et elle parle bien d'amour aussi, je trouve.
Ouais, je suis d'accord. Il me rit tout sonner. Ouais. C'est vraiment la chanson du gourmand, genre.
C'est celle que j'ai choisi de passer pour l'émission.
Ah, j'adore. Ouais, c'est vraiment notre chanson préférée.
J'ai souvent trop donné. Il me rit tout sonner. Quand je l'ai très ingrat, ils disent qu'ils m'avaient pas sonné. Pourtant, je suis juste passionnelle, au point d'en perdre sommeil. Si je t'aimais que ça va pas, sans te demander, je te passe mon aile. Mais comme moi, personne n'aime, toi non plus, rien de personnel. Tes messages donnés par sommeil. Donc j'ai le plaid de bon sommier. Pourtant je suis juste passionnelle, au point d'en perdre le sommeil. Si je t'aimais que ça va pas, sans te demander je te passe mon aide. Pourtant je suis juste passionnelle, au point d'en perdre le sommeil. Si je t'aimais que ça va pas, sans te demander je te passe mon aide. Super relation pour une raison. Moi je suis une garçonnée, un peu trop garçonnée. Méchante à cause de la pression qui me monte au nez. Trop gentil, tous me frappent. C'est moi qui ai tendu le putain de bâtonnet. Stationne devant mon cœur, évite de sonner. Les problèmes ont déjà fait peur au sommeil. Mon cœur est resté seul plusieurs longues semaines. Pourtant, je pleurais, personne n'a tendu sa main. Mais comme moi, personne. Toi non plus, rien de personnel. Tes messages donnent hyper sommeil. Donc j'ai le plaid et le bon sommeil. Pourtant je suis juste passionnée, au point d'en perdre le sommeil. Si je t'aimais que ça va pas, sans te demander je te passe mon aile. Pourtant je suis juste passionnée, au point d'en perdre le sommeil.
Théodora, Justine Briquet-Moreno, vous aimez bien cette chanson ?
Ah oui, je l'adore. Je l'écoute en boucle.
Alors, je vous conseille d'aller voir la pièce Bestiole, mise en scène par Sephora Pondy pour la Comédie française. On entend l'actrice Léa Lopez la chanter a cappella à la fin d'un texte qui traite de l'adolescence, de l'amitié et de la sexualité. Et je peux vous dire, ça va vous coller des frissons, tout comme quand on écoute cette très belle version de Théodora. Aujourd'hui, on parle d'amour, ce que les jeunes nous apprennent de l'amour. Et déjà, pas mal de choses sur ce que sont les rapports hommes-femmes, la place de la sexualité, la place de l'amour dans nos biographies par rapport à l'amitié, par exemple. Et puis, je me suis demandé ce qu'on apprenait de l'amour à l'école. Parce qu'il n'y a pas que le cours d'éducation sexuelle, il y a aussi le programme de littérature en quatrième, mais pas seulement. Alors, j'en ai parlé avec notre stagiaire de la semaine, Valentine, qui est en troisième, et puis avec l'enseignante de français, Séverine Furtado.
Je me souviens qu'on a travaillé le CID sur la question de l'honneur ou l'amour. On avait fait travailler sur des poèmes qu'on en avait étudiés. Franchement, c'était bien. En plus, c'est pas une séquence où on est tous assis, on fait pas de bruit. On écrit des poèmes, on demande à l'autre des idées. Enfin, c'est assez convivial comme séquence. Moi, j'ai bien aimé.
Est-ce que ça t'a fait réfléchir à ce que c'est l'amour ?
Un petit peu, oui, même si je m'étais déjà posé des questions. Par exemple, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'est que c'était dans le CID. Notre prof, elle nous avait expliqué que la haine, elle est plus proche de l'amour que l'indifférence.
Nous avons plusieurs entrées dans le programme, dont l'entrée « Se chercher, se construire ». Et pour la classe de quatrième, c'est l'entrée « Dire l'amour ». Donc il s'agit vraiment de mettre des mots sur le sentiment amoureux. On peut très bien traiter cette entrée à partir d'un groupement de textes de poésie ou à partir du théâtre ou du roman. Tout est possible. C'est vraiment, je pense, plus quelque chose qui peut les aider, les accompagner à mettre des mots, à emprunter les mots des autres pour dire finalement ce qu'ils ressentent. Cyrano, c'est quelque chose, par exemple, qui plaît beaucoup quand on aborde dire l'amour sous l'angle du théâtre. C'est quelque chose qui leur plaît énormément, finalement, de, à travers la voix de personnages, d'exprimer le sentiment amoureux. Et je pense que c'est ce qui passe le mieux avec eux, c'est vraiment le théâtre. Parce qu'il y a une forme de mise à distance, d'emprunter la voix de personnages pour exprimer l'amour. Je trouve qu'en français, l'expression du sentiment amoureux ne va pas se réduire au programme de quatrième. On va aussi le retrouver beaucoup dans le programme de troisième. Alors même si c'est pas la même entrée du programme, mais quand on étudie Antigone de Jean Anouilh, les élèves se questionnent sur pourquoi Antigone a choisi l'honneur de son frère plutôt que son amour pour Aimon. La question de l'amour, finalement, on la retrouve dans beaucoup d'entrées du programme. C'est quelque chose de constant, j'ai envie de dire, dans notre enseignement.
Est-ce que les élèves ont changé depuis, par exemple, toute cette période MeToo, où on a collectivement davantage parlé du consentement, et peut-être pour d'autres raisons, est-ce que vous avez senti des évolutions ?
Oui, les évolutions, par contre, on les ressent vraiment, notamment oui, sur cette question du consentement. C'est une question qui est vive. Nous avons l'impression qu'avec les smartphones, l'accès aux réseaux sociaux, les enfants savent tout. Mais c'est loin d'être le cas et ils ont finalement beaucoup de questions. En tant qu'enseignante française, nous allons notamment percevoir ces questions quand nous allons les faire travailler sur des carnets de lecteurs où ils vont pouvoir écrire au fil de leur lecture et on ressent en fait leur questionnement fort. On voit que ces textes, ces lectures font écho aux questions qu'ils se posent, à leurs interrogations multiples, et notamment cette question du consentement qui est très vive pour eux, qui revient souvent. Je pense en particulier à un livre que l'on fait étudier aux élèves en parallèle d'une séquence sur la poésie, qui est « Tourbé de mon amour » de Pierre Bottero. C'est une histoire d'amour entre deux adolescents. Mais finalement, cette question du consentement apparaît, cette question du regard des autres, de comment dire son amour, comment l'exprimer, comment oser être soi face au groupe. Et c'est une œuvre que les élèves apprécient énormément. Ils m'en reparlent même les années suivantes, parce que ça les marque, parce que le héros va toucher la jeune fille sans son consentement. Et il y a toujours des questionnements qui sont soulevés en classe. Là, j'évoquais une œuvre de littérature jeunesse, mais le sentiment amoureux, on peut le travailler autour d'œuvres très exigeantes, comme l'année dernière, je m'étais lancée dans l'étude du mentor de Corneille, de ce mentor séducteur qui finalement manque de confiance en lui et fait tout pour séduire les femmes. L'entrée du programme Dire l'amour permet vraiment de travailler des œuvres exigeantes. C'est ça qui est beau finalement, ils aiment faire des œuvres un peu complexes, compliquées, ils sont tellement fiers d'eux ensuite.
Parler d'amour en classe, c'est aussi beaucoup passé par des représentations culturelle. Alors, on va revenir évidemment sur le consentement, qui est un énorme morceau de cette discussion sur ce que les jeunes nous apprennent de l'amour, ce que l'époque nous apprend de l'amour. Mais ces représentations culturelles, Christine Détré, elles vous ont beaucoup intéressée dans Crush, fragment du nouveau discours amoureux, dont on pourrait dire que c'est publié chez Flammarion. Parce que, justement, elles sont souvent un peu décalées, ces œuvres qui parlent d'amour, qui ne sont pas forcément très anciennes. Et nous vendent un petit peu des représentations stéréotypées du sentiment et des relations amoureuses.
Oui, bah tout à l'heure, Justine, vous parliez de l'importance des rôles modèles. Et je pense que là, on est aussi sur cette question-là. Et du coup, de l'importance de cette séquence « Dire l'amour » en quatrième. J'ai une doctorante, Marine Lambolaise, qui a travaillé sur ces séquences-là. Et dans sa thèse, elle montre des choses qui sont passionnantes. C'est l'importance de l'accompagnement par le professeur ou la professeure, en fait, de cette séquence-là. Vous pouvez très bien travailler un texte le plus stéréotypé possible. Et au contraire, le contextualiser, l'inscrire, comme on le disait tout à l'heure, dans le temps, le siècle, et expliquer pourquoi à telle ou telle époque, effectivement, on peut penser que la jalousie, c'est la preuve absolue de l'amour pour une fille, ou mourir pour quelqu'un, c'est hyper romantique. Et ça, en même temps, on voit bien comment, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, mais comment on a aussi toute une réflexion, une déconstruction de ces stéréotypes-là associés au romantisme. Donc, soit vous avez trouver un prof qui accompagne ça, qui contextualise, qui réfléchit, soit ça peut continuer à s'infuser. Et Marine Nambolaise, la doctorante, aujourd'hui docteur, dont je parlais tout à l'heure, avait travaillé sur des productions faites par les ados dans le cadre de ces séquences-là, et elle montrait comment on retrouvait ces discours-là de la jeune fille infirmière qui va soigner voilà, le pauvre jeune homme, alors homme, généralement, il est toujours plus vieux qu'elle, mais éprouvé par la vie, sa mère, ses multiples relations, etc., précédentes. Et c'était très intéressant parce qu'elle disait, est-ce que là, les élèves nous redonnent ce qu'ils pensent devoir être écrit, puisqu'on est dans le cours de dans le cadre de l'école, de la classe, et ils ont étudié auparavant des œuvres qui disent ça, ou est-ce qu'ils, eux-mêmes, continuent à penser ces choses-là et puis aller perpétuer, en fait. Et d'où, voilà ce que je disais, l'importance vraiment de... Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout éradiquer les œuvres qui peuvent nous paraître les plus stéréotypées des programmes scolaires, des rayons des librairies, de ce qu'on lit. Enfin, voilà, il y a un patrimoine, je ne sais pas comment le dire, littéraire, mais en revanche, il faut le contextualiser, il faut l'accompagner, il faut réfléchir dessus, en fait.
Mais alors, on doit réfléchir aux productions d'aujourd'hui, parce qu'il y a une grande consommation de romance, déjà, donc avec ces scénarios un petit peu stéréotypés de femmes salvatrices et d'hommes qui vont trouver la rédemption dans l'amour, et puis de dark romance, où là, c'est bien pire parce que la violence est plus ou moins surmontée, mais surtout bien présente et toujours pardonnée. Justine Briquet-Moreno, est-ce que vous pensez que ces scénarios tout faits, y compris violents et qui remportent un grand succès, hein, c'est pas rien, hein, comme vente de livres, la dark romance, ça influence les scénarios amoureux réels, parce qu'on aime bien parler de consentement, mais là, justement, c'est plutôt du côté de la violence qu'on se situe.
Moi, je pense que c'est une génération très paradoxale, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, elle déconstruit tous ces récits sur les relations amoureuses qui peuvent leur paraître des fois clichés. Et en même temps, oui, complètement, ils adhèrent à ces modèles-là aussi. Ils les consomment à travers la dark romance, effectivement, qui est très en vogue sur TikTok. Il suffit de taper le mot-clé sur TikTok et vous allez tomber sur des tonnes et des tonnes de vidéos où finalement les jeunes parlent de ces lectures-là qui les happent complètement. Et effectivement, il y a de la violence, en fait, dans les histoires des jeunes. Il ne faut pas penser qu'ils ont tout déconstruit. Ils sont en phase de déconstruction. Par contre, ils ont la réflexion et ils ont les outils pour réfléchir à cette violence qui peut s'exercer des fois dans leurs relations. Et moi, j'ai été frappée par le fait que, notamment, par exemple, les jeunes femmes que j'ai pu rencontrer pour mon enquête, elles avaient un recul sur leur courte vie amoureuse et sexuelle qui était assez sidérant. C'est-à-dire qu'elles étaient capables de dire, moi, ma première fois, elle était ultra violente, elle n'était pas consentie et je me suis pas retrouvée dans ce moment. C'était pas un moment de partage tel que moi, je l'aurais voulu. Et donc, je pense qu'ils ont une conscience aiguë quand même du consentement.
Dans tous les milieux sociaux.
Je trouve que quand même, même s'ils n'ont pas la même manière de poser les mots dessus, les filles en tout cas, pas forcément les garçons, mais les filles,
c'est une grande question,
vont dire plus facilement « je n'étais pas d'accord ». Alors peut-être qu'elles n'ont pas les mots comme d'autres qui vont être peut-être plus favorisés, qui se sont informés, qui elles ont connaissance même de la définition pénale du viol, de l'agression sexuelle. Souvent elles suivent des comptes féministes qui vulgarisent un peu ces informations et les rendent accessibles à tout le monde et notamment aux jeunes. Donc ces jeunes plus favorisés, effectivement, elles vont peut-être le dire plus facilement, mais les autres, quand même, maintenant, ont moins de mal, quand même, à verbaliser leur désaccord et le fait qu'elles n'ont pas bien vécu une relation intime.
Armelle Andreau, vous me direz si vous êtes d'accord, mais ne serions-nous pas la première génération de femmes mûres ou de mères, je parle pour moi, hein, si je voulais pas que je parle pour vous, par exemple.
Ça marche pour moi aussi.
Ok. Capable d'entendre cela.
Je pense que effectivement, on fait sans doute partie des premières générations à avoir tenté par notre activisme et par notre appropriation des courants féministes antérieurs à avoir verbalisé ces choses, d'avoir mis le pied dans la porte, on va dire, de la remise en question du contrat hétérosexuel pour le dire comme ça, ou d'avoir commencé à questionner les enjeux autour de l'ordre du genre et du patriarcat et de toutes ces dimensions, et que on est forcément plus voilà, attentive à, déjà dans la transmission vis-à-vis des plus jeunes, et puis aussi de, du coup, d'être à l'écoute de ce que, bah, du pas en supplémentaire que les jeunes générations peuvent faire. Alors, je pense qu'il y a évidemment en grande majorité les filles, mais il y a aussi des garçons qui remettent en question l'hétérosexualité dans l'ouvrage.
Qu'est-ce que vous entendez par hétérosexualité ? Parce que je crois qu'il y a autre chose que le fait d'être en couple hétérosexuel dans hétérosexualité. Pour
alors
vous,
en fait, on va peut-être dire qu'il y a quelque part, il y a trois niveaux. C'est la conclusion de l'ouvrage de Marie Bergström sur la sexualité qui vient, qui dit quand on remet en question l'hétérosexualité, c'est en fait une manière de remettre en question un système binaire qui est à la fois l'identité de genre, c'est-à-dire les hommes, les femmes, bah finalement il y a peut-être pas que ça, ou c'est peut-être pas si important que ça, il y a d'autres manières de se définir. Il y a la remise en question de la binarité dans la sexualité, avec l'apparition de gens qui disent d'avoir une vie hétérosexuelle ou homosexuelle, on a aussi, ça dépend des moments, on peut être pansexuel, être attiré par toute personne, quel que soit son sexe, ou même de considérer que la sexualité, c'est pas si important dans la vie, et voire on n'est pas tellement intéressé. Et puis, il y a enfin aussi cette dernière dimension de remise en question de la binarité sur les relations. C'est-à-dire, soit on est célibataire, soit on est en couple. Ben non, il y a aussi toute une variation de possibilités là-dedans. Et donc, ces trois niveaux entre le genre, la sexualité et les relations, ben, c'est le côté binaire de toutes ces questions qui est remis en question par les filles en particulier, mais les garçons, certains garçons aussi.
Là, on parle des jeunes, mais si on parle des gens de nos générations, est-ce que des gens nés dans les années 70, par exemple, remettent en cause différemment, suivant leur genre, cet ordre hétérosexuel ?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, on voyait déjà dans les enquêtes précédentes qu'il y avait une forme de rapprochement des comportements des hommes et des femmes en matière de pratiques sexuelles, de nombre d'expériences, du nombre de partenaires, par exemple, au cours de la vie, ou du rapprochement de l'âge au premier rapport sexuel. Donc c'était des choses qui étaient déjà initiées et amorcées dans les générations précédentes. Par contre, de là à dire que dans les générations nées dans les années 70, on remettait en question l'ordre du genre, je pense que les femmes de nos générations étaient plutôt dans la situation d'essayer de tout faire en même temps. Et donc d'être à la fois sexuellement proche de ce que faisaient les hommes, mais tout en restant en charge très largement des tâches parentales ou des tâches domestiques. Et peut-être que les jeunes femmes des générations contemporaines sont plutôt à dire « mais pourquoi vous en avez fait autant ?» Et c'est peut-être là-dessus qu'elles nous questionnent.
Christine Détré, est-ce que finalement, les sentiments, c'est l'affaire des femmes ?
Oui, là on peut parler du travail émotionnel en fait, qui est vraiment un concept sociologique où on apprend effectivement les sentiments, les émotions qu'on est censé devoir ressentir à tel ou tel moment, parce qu'on est dans la société qui diffuse ces normes-là. Alors oui, bien évidemment qu'on apprend, on apprend à ses enfants, on apprend à ses étudiants et étudiantes, mais moi j'apprends beaucoup par mes étudiantes, par mes étudiants et par mes enfants qui sont aujourd'hui des jeunes adultes en fait, et j'ai beaucoup appris sur des réflexions que je pouvais avoir, sur des stéréotypes que j'avais. Enfin, voilà, on parle beaucoup de déconstruction, puis on a l'impression que, je vais le dire un peu brusquement, mais qu'il suffirait qu'il y ait une série, et il y a des nouvelles séries, Sex Education, c'est une révolution quand même, mais il faut du temps. Enfin, si on a été éduqué, socialisé pendant des siècles à des modèles romantiques, stéréotypés tels qu'ils sont, il faut du temps pour s'en défaire. On avait invité une sociologue espagnole, Coral Herrera Gomez, et elle avait eu à l'ENS, elle avait eu une formule que j'avais l'avait trouvée très belle. Elle avait dit, donc elle, elle est voilà, féministe, militante, déconstruite, déconstruisante. Enfin, je sais pas quel participe actif inventé, mais et elle avait dit, mais souvent, je me rends compte que j'ai la tête féministe et le cœur romantique. Et voilà, on se retrouve souvent avec cette dissension en fait cognitive. Et je pense que si c'est un travail, c'est un travail collectif et c'est un travail qui prend du temps.
Justine Briquet-Moreno, la tête pleine d'idées et le cœur rempli d'autres élans, ça existe aussi chez les jeunes ?
Ben, moi, je pense que pourquoi ce serait forcément en contradiction le féminisme et les idées féministes avec le romantisme ? Je pense que, en fait, cette jeune génération, elle essaye juste de réinventer l'amour et de réinventer des codes amoureux qui seraient différents, dans lesquels peut-être il y aurait moins de violence. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas l'amour tel qu'on le rêve, quoi. Je fais partie de cette génération et du coup, quand je menais les entretiens, je pouvais me reconnaître aussi des fois dans les récits que j'entendais. L'idéal romantique et de l'amour, de ce que j'ai entendu des jeunes, c'est toujours un horizon de vie pour eux. Ça les fait toujours vibrer. C'est juste qu'ils sont en train juste de réajuster certaines choses et ils mettent en place voilà, leurs valeurs en même temps qu'ils évoluent et qu'ils grandissent. Et ils ajustent en fait leur vision du romantisme avec ces valeurs-là. Et ils questionnent les violences qu'il peut y avoir dans les représentations qu'on peut avoir sur l'amour.
Je pense que par rapport au MeToo, en tout cas, maintenant, du coup, le consentement et même le droit des femmes, le respect des femmes et tout, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup plus facilement, même avec des garçons de notre âge. Après, je pense que c'est parce qu'on a aussi pas mal de potes garçons avec qui on n'a pas de souci d'en parler et tout, mais on a eu d'autres discussions qui montrent que c'est pas forcément un acquis pour tout le monde. Mais oui, je trouve que c'est quelque chose... on en parle dans tous les cours, pour le coup, que ce soit en histoire, en droit, en SGSP, en philo. C'est quelque chose de beaucoup plus ancré qu'avant, où je pense que c'était encore un peu tabou. Maintenant, c'est vraiment central.
Dans tous les cours, vous parlez du consentement, d'une manière ou d'une autre ?
Pas forcément du consentement, mais en tout cas des mouvements de lutte féministe, etc. Et en vrai, le consentement, je trouve que, mine de rien, c'est quand même quelque chose...
Même avec l'actualité. Ouais. Comme nos cours, en tout cas nous, nos SP par exemple, elles renvoient énormément à l'actualité et qu'on en parle plus dans l'actualité, ce qui est une bonne chose malheureusement. Qu'on en entende plus parler, et bah, ça fait que par exemple, il y a quelques années, peut-être qu'au lycée, ils abordaient jamais la question, alors que nous, on est confrontés, malheureusement, mais heureusement d'un côté, très jeunes à parler de ça, et ce qui est une bonne chose quand même.
Moi, je trouve que ça rejoint donc la question du respect et qu'on l'aborde beaucoup plus facilement. Même quand on ne connaît pas forcément un garçon, je trouve qu'on va beaucoup plus poser la question. Déjà, on va se rendre compte et ça va être vraiment un des critères parce qu'on fait très attention à ça. Et même les garçons, je trouve que du coup, ça leur a un peu mis... Enfin, maintenant, ils ont un peu peur, limite. Et donc, ils s'assurent à chaque fois, t'es sûr. Enfin, même eux, ça les a bien changés. Et même eux, ils font vraiment attention. Nous aussi, c'est vraiment un critère.
Ça rejoint votre enquête, Justine Briquet-Moreno ?
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'effectivement, ce que vous disiez, Armel, tout à l'heure, est vrai concernant les garçons. Non, ils ne sont pas tous réactionnaires et masculinistes. Et eux aussi, ça les interroge, la notion de consentement. Et effectivement, souvent, ça revenait dans les discussions où ils m'expliquaient que des fois, ils avaient peur de mal faire, parce que justement, comme ils entendent énormément parler de cette notion de consentement à travers l'actualité, et les garçons, pour revenir à ce que je disais, en viennent à commencer leur rapport sexuel en demandant, pour chaque acte sexuel différent, est-ce que tu es d'accord ? Quitte à des fois créer peut-être même un malaise avec la jeune fille qui, elle, n'attend pas forcément d'être questionnée à chaque étape. Mais eux, ça les rassure parce qu'ils ont peur de mal faire et à un moment donné d'être pointés du doigt aussi pour avoir mal fait. Donc des fois, il y en a qui même s'en détournent de la sexualité parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir les codes et ils ont peur de ne pas être à la hauteur en fait.
En même temps, cette discussion préalable et cette... négociation ou du moins cette demande, tout simplement, ça change hein, comme scénario sexuel. Et là aussi, ça nous renvoie peut-être à notre propre histoire, Armel Andreau. Ce sont des scripts qui évoluent. Alors, c'est pas tout le monde, tout le temps, à chaque fois, mais on voit que quand même, il y a une évolution qui interroge les parcours des gens plus âgés.
Mais effectivement, ça, on le voit très très bien dans l'enquête que le scénario de l'entrée dans la sexualité qui partageait voilà les jeunes entre ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait. On voit aujourd'hui donc des travaux préparatoires notamment de la dernière enquête là où on avait justement discuté le questionnaire avec des jeunes ados avant de le formaliser définitivement pour être sûr qu'on posait les bonnes questions. Il nous avait dit tout de suite mais pourquoi vous focalisez sur ce premier rapport là, pourquoi vous posez pas des questions sur les prélits? Et donc nous on se disait les préliminaires, mais déjà on trouvait à nos âges que ce mot était un peu ringard, et il disait mais pas du tout, c'est ça qui est important dans l'entrée dans la sexualité, c'est la première fois qu'on fait des prélits. Et en fait on s'est aperçu là, typiquement c'est extrêmement intéressant en termes de changement du sens des mots, c'est-à-dire que pour les plus âgés d'entre nous, les préliminaires c'est quelque chose qui a lieu en même temps que le rapport sexuel avant, comme espèce de prémices du rapport sexuel, alors que pour les plus jeunes, en grande partie, les préliminaires, c'est comme une première étoile entre sexualité, comme pour le ski, de dire voilà, on va faire des préliminaires avec quelqu'un à un moment, et puis peut-être un an ou deux ans après, on fera le premier rapport avec une autre personne. Mais c'est comme un début de certification de l'entrée dans la sexualité adulte. Et ça, c'est des changements de scénario qu'on peine à comprendre, nous, à nos âges, parce que là, typiquement, c'est le cas extrême où on utilise le même mot, mais par contre, on ne parle plus du tout de la même chose d'une génération à l'autre.
Ouais, direct, piste rouge pour les plus âgés. J'aime beaucoup cette image du ski. Christine Détré, est-ce que le crush, ce ne serait pas un safe space, pour utiliser une expression du moment, c'est-à-dire un endroit où justement, eh ben, on ne prend pas le risque de la sexualité, ni même de la relation du tout, et qui convient très bien, puisqu'on est là avec ses amis, on peut en parler, et ça c'est vraiment une joie et un plaisir, et on n'a pas besoin d'aller plus loin.
Alors c'est en tout cas ce que disaient beaucoup de jeunes adolescentes qu'on avait interrogées. Et tout à l'heure je parlais de travail émotionnel, mais c'était vraiment ça, c'était de dire c'est comme ça aussi qu'on apprend par les encouragements des unes et des autres. Ah, ce que tu ressens là, bah c'est un crush en fait. Voilà, toi tu ne mets pas le mot dessus, mais ce que tu me dis là, les petits papillons dans le ventre, ah c'est un crush. Ah ok, j'ai un crush. Donc il y a tout un travail émotionnel aussi de validation et de dévalidation. On apprend aussi qui on peut aimer, enfin pour qui on peut crusher. Donc c'est les copines qui vont dire non mais c'est pas possible, celui-là c'est pas quelqu'un sur qui tu peux avoir un crush. Donc il y a toute cette dimension très importante du travail émotionnel et du temps effectivement passé avec les copines à parler et passé sur les réseaux sociaux à stalker. Et ça c'est aussi quelque chose qui revient énormément, c'est les enquêtes en fait qu'elles vont faire à couvert, et donc là le drame
c'est super sophistiqué,
ah ouais.
C'est aller voir sans être vu l'activité
et le
d'une
drame
personne.
C'est quand on met un like malencontreux sur voilà, la page de celui ou de celle qu'on stalkait. Et en même temps, c'est léger, si frivole. On a l'impression que c'est léger et frivole, mais ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend, comme je disais, qui on est censé aimer ou pas, etc. Donc, ça apprend les normes. Ça apprend aussi, bah alors voilà, aux garçons qui vont... et là aussi, hein, bien évidemment, je dis les garçons, mais il faudrait revenir sur tout ce qu'on a dit avant. Mais des garçons qu'on interrogeait, déjà, c'était beaucoup plus difficile de trouver des garçons que des jeunes filles, en fait, à interroger.
Ah, toujours sur ces sujets.
Sur le crush, sur l'amour, etc. Et quand ils nous répondaient, ils disaient, mais moi, le crush, oui, j'en parle à ma meilleure amie, à mon confident, à mon copain. Mon cousin, mais jamais j'en parlerai à la bande de copains, à la bande de garçons. Alors que pour les filles, au contraire, c'était une pratique culturelle. Pour les garçons, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Donc voilà, safe place, mais où on apprend aussi, justement, les normes et parfois, ça dépend quand même. Voilà.
Et enfin, je voudrais vous soumettre un autre élément, et c'est pas spécialement ce que je m'attendais à trouver avec mes lycéennes de 18 ans des Yvelines. En fait, elles m'ont parlé de leurs parents et elles m'ont parlé de leur divorce.
On est une génération où il y a de plus en plus de parents divorcés. Ça influence énormément nos relations et on s'en rend compte sur comment on agit, comment on perçoit l'amour, le couple, etc. Que, bah, on fait des rapprochements entre ce qu'on a vécu, ce que nos parents ont vécu et ce que nous, on reproduit en fait.
Beaucoup plus en grandissant que quand on était enfant. Maintenant, on se rend vraiment compte l'impact que ça a eu, même si on pense que ça nous a pas forcément touché. Maintenant, au lycée ou quoi, quand nous, on a des relations même amicales, en vrai, ça, on se rend compte que ça joue vraiment dessus.
Mais comme j'ai eu la vision justement de mes parents qui se séparent, et en plus dans de très mauvais termes, et d'avoir en plus des amis où la plupart leurs parents sont séparés, et il y a plus de films, etc., avec les parents séparés, pour moi, ça va se terminer dans tous les cas, donc autant rien commencer, parce que plus ça dure, plus lorsque ça va se finir, ça va faire mal. Donc ça, on va construire quelque chose qui va se détruire, peu importe, et donc ça va faire du mal à l'un comme à l'autre. Moi, je suis hyper pessimiste sur ça.
Et toi, Maëlle ?
Moi, je rejoins pas trop cet avis. Enfin, j'essaye de quand même rester plus optimiste, puisque du coup, dans le cas de, par exemple, mes parents, ils ont quand même eu une belle vie de couple avant de se séparer. Du coup, j'essaye de me dire que ça reste quand même des beaux moments partagés, malgré la fin qui peut être très compliquée. Mais en tout cas, dans notre tranche d'âge, et du coup, vu le nombre de personnes qui ont les parents séparés, je trouve que ça devient pratiquement un critère, par contre, de sortir avec quelqu'un qui a également des parents séparés. Dans le sens où quelqu'un, partager une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision de l'amour et qui va pas du tout comprendre nos réactions, nos appréhensions, nos peurs, etc., c'est beaucoup plus compliqué, alors que quelqu'un qui a vécu la même chose et qui est un peu dans la même situation, ça va être beaucoup plus simple de se projeter ou même de comprendre comment l'autre agit par rapport à ça.
Et oui, les jeunes d'aujourd'hui sont nombreux à être des enfants du divorce. Alors, toutes les séparations ne sont pas houleuses, mais certaines le sont. Et de toute façon, c'est très important dans la vie des enfants. Est-ce que les jeunes que vous avez interrogés, Justine Briquet-Moreno, vous en ont parlé ?
Oui. Je me rappelle notamment d'un témoignage marquant où vraiment c'était un garçon qui m'expliquait du coup que ses parents étaient en plein divorce et ça avait un impact direct sur sa manière de se transposer dans l'avenir et sa manière de percevoir l'amour. Et il me disait pour l'instant, j'avoue que je ne me transpose plus dans le couple parce que justement j'ai ce modèle au-dessus qui symbolise finalement une fracture. Et en fait, il y a cette peur dans tous les témoignages que j'ai pu recueillir, il y a cette peur diffuse un peu de souffrir, de s'engager dans quelque chose qui va leur enlever une part d'eux-mêmes. Ils ont peur de prendre des risques des fois. Et effectivement, le modèle des parents divorcés maintenant c'est la norme, alors qu'avant c'était pas la norme il y a quelques années. Ça a un impact sur leur manière de voir le futur, de même concevoir la famille. On voit qu'il y a beaucoup d'études, de sondages qui disent que les jeunes générations, elles ont de moins en moins envie d'avoir des enfants, parce que finalement le modèle de la famille, il est en train de se recomposer aussi, comme l'amour. Donc là aussi, ça vient tout bouleverser chez eux. Ça amène plein de questions. Ça veut pas dire que dans quelques années, ils n'auront pas finalement un partenaire de vie. Mais en tout cas, ça amène ces questions. Effectivement, il y a une vision de l'amour qui est peut-être un peu plus négative.
Et de la famille, peut-être. Alors, amour et famille, ça ne va pas forcément ensemble, mais ça peut. Et puis, on le sait, hein, la natalité baisse, c'est même une inquiétude au plus haut sommet de l'État. On va écrire des lettres aux femmes et aux hommes peut-être de 29 ans pour leur demander d'y penser. Ça pourrait faire l'objet d'une émission aussi. Mais Christine Détré, sur ce modèle un petit peu abîmé aussi de l'amour dans le temps.
Alors, abîmé, peut-être qu'il évolue tout simplement. Et quand on parlait tout à l'heure de la difficulté de déconstruire, vu le poids des représentations avec lesquelles on a été élevé, il y a peut-être une différence entre des couples qui se déchirent et qui se séparent. Et des couples qui se séparent, c'est peut-être tout simplement le stéréotype de la personne, the one, qu'on a eu dans tellement de contes, de livres, de dessins animés, même dans Sex and the City, qui passait pour la série hyper émancipatrice de notre temps. Non, elle attendait la personne, en
Mister
fait.
B.
Voilà, donc c'est aussi ce modèle-là qui tient plus, en fait. Mais là aussi, comme je disais tout à l'heure, il faut du temps, en fait, pour que ça infuse dans nos façons de penser, en fait, et de vivre les situations.
Armel Andro, pour conclure.
Oui, je voudrais quand même peut-être dire que, certes, ce sont les générations d'enfants du divorce, mais c'est aussi la génération des enfants des recompositions familiales. Mmh. On peut aussi regarder le côté un peu plus positif, et que c'est aussi des générations pour qui l'amour se décline aussi sous des formes multiples, de familles choisies, de familles recomposées, et que l'imbrication entre sexualité, couple et amour est plus aussi évidente. Donc plutôt que d'être déçu de l'amour, c'est plutôt aussi une forme d'ouverture sur les différentes formes d'amour, qu'elles soient amicales ou dans des familles recomposées aussi.
Et merci Armel Andro de clore l'émission sur une note optimiste. Je rappelle les titres des livres de nos invités. Christine Détré, Crush, fragment du nouveau discours amoureux. Justine Briquet-Moreno, Les Cobayes, enquête sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans. Vous êtes toutes deux publiées chez Flammarion. Et je remercie Jeanne Agrapard qui a programmé ce numéro d'Être et Savoir, un numéro que vous pouvez écouter sur franceculture.fr ou la plateforme Radio France. On remercie toute l'équipe, Avril Ventura, productrice adjointe, et François Richer, ainsi que Valentine Gournay, notre stagiaire de 3e qui nous a accompagnés et nous accompagnera encore toute la semaine.